C'est bon? Alors R22 tout le monde, antenne Arsport 2024. Et après?
Bonjour Florence, qui es-tu?
Bonjour. Je suis une femme française qui vit en Suède. Je suis blanche et j'ai beaucoup jonglé dans ma vie. Je ne sais pas si je me définirais toujours en tant que jongleuse parce que ça fait un an et demi que je n'ai pas jonglé. Mais c'est une grosse partie de moi. Je suis une artiste pluridisciplinaire. Je fais beaucoup de photographies. J'écris. J'ai créé un magazine. J'ai fait beaucoup de spectacles. J'enseigne aussi. Et voilà, et je suis très curieuse.
Et Florence Huet, comment est-ce que tu es venue au jonglage?
Alors, la première fois que j'ai vu, je crois que c'était une jeune fille sur le pont des Arts, j'avais 15 ans, qui faisait tourner des bolas autour d'elle avec du feu. Et je trouvais ça trop cool et je voulais absolument faire la même chose. Du coup, j'ai regardé sur internet comment ça s'appelait, qu'est-ce que c'était, j'ai trouvé où les acheter et je me suis acheté un bidon d'essence et j'ai passé tout mon été à enflammer deux chaînes autour de moi et les faire tourner autour de moi sur la plage pendant l'été ou dans les parcs. Et c'était vraiment... Au départ, pour moi, c'était pas du tout l'intérêt n'était pas du tout la manipulation d'objets, mais c'était être au milieu du feu, plus rien voir autour, plus rien entendre, plus rien sentir d'autre que les flammes autour de moi. Et j'ai, voilà, et du coup, j'ai commencé à faire ça. C'était aussi une manière pour moi. J'ai fait beaucoup de danse et c'était une manière d'avoir une raison de danser qui ne soit pas juste danser, comme un partenaire, comme un... Et à un moment où j'étais pas très à l'aise dans mon corps, dans qui j'étais, et du coup, c'était un super exutoire. Et petit à petit, du coup, la communauté qui jongle avec du feu... est très très liée à la communauté qui jongle en général. Donc je me suis retrouvée à vouloir rencontrer d'autres personnes qui faisaient ça dans des squats, dans l'espace public, dans des endroits où on se rejoignait, et c'était aussi les endroits où les jongleurs se rencontraient. Et donc c'est comme ça petit à petit que j'ai découvert la manipulation d'objets en elle-même et petit à petit, j'ai enlevé le feu et j'ai juste gardé les objets.
Et quel lien le jonglage entretient avec les milieux de l'art et les milieux du sport?
Alors, en France, on voit vraiment le jonglage comme un art. En général, dans la majorité, il y a aussi des personnes qui pratiquent vraiment comme un sport, mais je dirais qu'elles sont en minorité. Tandis qu'aux États-Unis, où il y a une très grosse communauté qui voit premièrement le jonglage comme un sport. Et donc il y a différents mouvements un peu partout dans le monde, des communautés dans chaque pays, dans chaque des fois c'est pas attaché à une région, mais c'est plutôt attaché à un type d'objet ou un type de jonglage. Donc là du coup c'est plutôt des communautés en ligne où les personnes se rencontrent, et donc il y a vraiment cette dualité entre les qui assez souvent ne se rencontrent pas, en fait, qui se combattent un peu de est-ce que c'est quoi l'objet du jonglage, en fait, c'est d'aller plus vite, d'avoir plus d'objets, de les envoyer de manière plus compliquée ou d'exprimer quelque chose à travers la manipulation d'objets, ce que ça évoque, comment ça nous fait bouger. Oui, il y a vraiment. Après, il y a aussi des endroits où ça se rejoint, bien sûr. Je pense qu'il y a des endroits où la question ne se pose pas du tout aussi.
Par exemple, c'est où que la question ne se pose pas ?
Bah, je ne sais pas, moi, en tout cas, par exemple, j'ai beaucoup navigué entre les deux. J'ai toujours été passionnée par les deux. Et j'ai eu des moments dans ma vie où. J'ai été m'entraîner pendant 6 mois en Ukraine avec un prof, un coach spécialisé. Donc, ma spécialité, c'est le jonglage avec des cerceaux. Et là, c'était un coach qui travaillait avec ces objets-là en particulier. Où je faisais 6 jours par semaine, toutes les matinées, je m'entraînais avec lui sur 5 figures. Et c'est tout. Et on faisait 5 figures encore et encore et encore. Et donc là, c'était vraiment une pratique sportive d'athlète où toute ma vie devait être organisée pour avoir la force physique et mentale de travailler sur ça. Donc là, pour moi, il n'y avait pas du tout de relation à l'art à ce moment-là dans ma vie. Et après, j'ai aussi... Je me suis nourrie énormément en faisant des workshops de choses qui, justement, sont très loin de la technique du jonglage. J'ai fait du clown, j'ai fait beaucoup de danse, du buteau, de la performance. Et je me nourris justement beaucoup d'art visuel, de politique aussi. Moi, je trouve que tout est politique et tout ce qu'on fait. Et donc, j'ai une pensée... Ouais, politique ou militante dans ce que je fais. Donc pour moi, ça englobe et voilà, je suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui j'ai l'impression qu'au final, ça, en apparence, il y a une très forte dualité, mais que quand même, tout le monde est nourri un peu par ces deux aspects-là, quoi.
Et le jonglage pourrait entrer aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça suscite des débats dans la communauté ?
Oui, des très gros débats. Alors c'est très récent là, c'est à la fois un débat très ancien et très récent en fait. Ça fait longtemps qu'on en parle comme d'une éventualité presque pas vraiment réalisable. Et que tout le monde a un avis très fort sur la question. Il y a beaucoup de batailles d'ego dans le jonglage. Et du coup, les personnes qui veulent définir le jonglage comme un art ou comme un sport sont toujours à vouloir défendre leur bout de gras et expliquer pourquoi ça ferait aucun sens qu'il y ait le jonglage aux Jeux Olympiques ou pourquoi il faudrait absolument que ça y soit. Et... Du coup, récemment, il y a Jason Garfield, qui est un homme américain qui a créé la WJF, donc World Juggling Federation. Ça existe depuis de nombreuses années. Il organise une convention tous les ans qui a pour but d'être une compétition où... qui regarde vraiment le jonglage comme un sport et donc où on met en compétition les athlètes avec la plus haute technique. Donc on ne juge que la technique. Je ne sais pas, il y a peut-être aussi des notes artistiques, mais ça, c'est vraiment pas ce qui prend le focus, quoi. Et donc, cette année, apparemment, il y a quelques mois, là, il a lancé les étapes pour une candidature du jonglage en tant que discipline aux Jeux Olympiques. Et voilà, c'est une toute petite section de ce que c'est que le jonglage dans le monde entier. C'est porté par un homme qui a une vision très particulière et très forte et qui a un réseau d'influence assez fermé, assez petit, avec qui... Donc c'est des discussions au final dont j'ai l'impression qui intéressent tout le monde, mais où tout le monde n'y prend pas part, où tout le monde n'y a pas accès. Et ouais, c'est assez... je sais pas, moi je trouve ça assez exclusif.
Et Florence, quelle place prend l'espace public dans ta pratique du jonglage ?
Alors, moi c'est vraiment dans l'espace public que j'ai commencé. J'ai commencé dans la rue, ouais, sur les plages, dans les parcs. Si on n'a pas de jardin, en fait, quand on fait quoi que ce soit avec du feu ou on a besoin de beaucoup de hauteur sous plafond, souvent on se retrouve dehors. Sachant que pour jongler, l'extérieur, c'est souvent le pire, en fait. On a le soleil dans les yeux, il y a le vent qui balade les objets, donc ça prend beaucoup... L'espace public, c'est hyper important parce que c'est là où on peut se rencontrer, c'est là où on s'apprend les uns les autres, où il y a souvent des lieux un peu mythiques, alors pour une période donnée, donc... Moi, quand j'ai commencé, par exemple, le parc de Bercy à Paris, c'était un endroit où on savait qu'il y avait tout le temps des jongleurs. Il y avait une journée, je ne sais plus. Il y a des jours où on sait que si on va au parc de Bercy, il y aura des jongleurs. Il y a eu le Champ de Mars à un moment à Paris. Et voilà, chaque grande ville un peu a un parc comme ça où... et ensuite, il y a des espaces qui se créent plus ou moins en intérieur. Par exemple, je sais qu'il y avait les Halles à un moment. C'était un super. Il y a eu une très très grosse communauté qui s'est entraînée aux Halles et qui a vraiment influencé le jonglage de manière très forte parce que donc c'était couvert, donc ils pouvaient rester. Même s'il pleuvait, etc. Et puis, c'était un béton bien, bien lisse, bien plat, donc c'est bien pour jongler, où il n'y a pas de différents niveaux, etc. On ne se prend pas les pieds dans je ne sais pas quoi. Et puis, en particulier, il y a eu tout un groupe qui a fait beaucoup de balles rebonds. Donc, c'est des balles souvent en silicone qui rebondissent sur le sol, et le sol des Halles était parfait pour ça. Donc, Et en fait, souvent, c'est ce qui se passe, c'est quand il y a une personne qui est super à fond dans quelque chose, il y a les autres qui regardent et qui s'y mettent aussi. Donc, il y a eu tout un gros groupe comme ça et qui a mené à un film qui est super mythique dans la communauté qui s'appelle « Bouncing in Paris ». C'est un film qui je sais pas s'ils en ont fait un DVD, mais je pense que ça a été un DVD qui s'est vendu ou en tout cas qui s'est partagé beaucoup beaucoup dans la communauté et qui est toujours une référence maintenant, en fait, où il y a je sais pas, c'est 1h30 ou quelque chose comme ça, et il y a énormément de figures, de patterns qui étaient vraiment une explosion de créativité à l'époque. Et tout a été filmé dans des endroits donc publics, aux Halles, au Palais de Tokyo. J'ai plus tous les lieux en tête, mais en tout cas dans des lieux comme ça qui s'y prêtaient bien, quoi.
Et est-ce que travailler dans l'espace public, ça laisse une empreinte dans le corps de la jongleuse ou du jongleur ?
Oui, c'est une question intéressante, ça, parce que... dans le corps, je ne sais pas, mais en tout cas dans les objets, c'est clair. Dans le corps des objets. Et donc, par exemple, je sais qu'il y a une... Il y a des... des gros débats entre sur les objets, quels sont les meilleurs objets. Donc il y a par exemple entre les balles, il y a les balles dures, les balles molles, les balles qui sont des sacs à grains, des balles qui sont remplies de silicone. Et donc il y a une très grande variété de balles, et certaines personnes vont dire mais cette balle c'est l'essence de ce qu'il faut, etc. Et en fait on n'a pas du tout tous les mêmes besoins. Donc par exemple en Amérique du Sud, on jonglait énormément dans la rue ou dans l'espace public en général, et en particulier il y a une très très grosse un très grand nombre de jongleurs qui vivent de faire des numéros très courts au feu rouge, et ensuite qui passe entre les voitures pour récupérer quelques pièces. Et c'est vraiment un moyen de gagner son pain là-bas, qui est très répandu. Les personnes dans les voitures apprécient ça et connaissent ça, et c'est très courant, pas comme on aurait ici où ce serait un peu bizarre. Et du coup, par exemple, dans les massues, il y a un espèce de petit bouchon dans l'extrémité de la poignée de la massue, un peu. Donc, c'est l'endroit qui est le plus souvent... Enfin, en fait, aux deux extrémités, il y a deux espèces de bouchons qui peuvent être faits dans différentes matières. Et la matière qui est la plus appréciée en Europe, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez poreux, et en fait c'est quelque chose qui se salit très vite, et si on jongle sur du béton, qui se détruit très vite, qui un peu comme de la gomme quoi, qui s'effrite. Et du coup les jongleurs ou les jongleuses d'Amérique du Sud ont tendance à pas du tout aimer ces bouchons là et à vouloir quelque chose de beaucoup plus résistant, qui peut tomber à longueur de journée sur le bitume et pas s'effriter. Et donc, c'est vraiment quelque chose que les fabricants d'objets découvrent, en fait, qu'ils ne connaissent pas forcément, et ils se disent, mais pourquoi ici, personne n'achète ce type de bouchon-là, ou pourquoi ces massues-là font un tabac dans ce pays qui est super loin, et on ne sait pas, et ici, tout le monde dit qu'elles sont nulles. Mais c'est parce qu'en fait, elles conviennent à un autre environnement. Et donc ça, je pense qu'en effet, on peut regarder les objets des jongleurs et des jongleuses et voir où ils s'entraînent, voir les traces de... Est-ce que le blanc est devenu un peu vert parce qu'ils sont tout le temps dans l'herbe? Est-ce que le plastique est bien poli et... parce qu'ils sont sur des surfaces un peu rugueuses, ou est-ce qu'on peut encore voir le détail du plastique qui a été moulé avec un petit détail, parce qu'ils sont sur des tapis tout le temps et que du coup, ça, c'est pas...
Et la vidéo, ça prend quelle place dans le milieu du jonglage?
Alors, la vidéo, ça a toujours été super important. Enfin, toujours, depuis que ça existe. Et puis, pour ma génération, moi, j'ai 32 ans, donc... YouTube est... Je pense que YouTube est arrivé à peu près au moment où je commençais à jongler. Donc, les générations avant moi, ils avaient aussi des vidéos, mais c'était plutôt sur des VHS. Et c'est vraiment quelque chose... énormément des personnes autour de moi qui ont appris en regardant des vidéos. Moi, j'ai complètement appris en regardant des vidéos. Les mouvements des chaînes que je faisais autour de moi, c'est soit des choses que j'ai trouvées moi-même en essayant, soit parce que j'ai trouvé des vidéos et j'ai regardé et j'ai passé des heures et des heures à essayer de comprendre comment l'objet y passait derrière le dos, si la paume était vers le corps ou vers l'extérieur. Et de la même manière, il y a aussi des vidéos. Donc, il y a tout plein de types de vidéos. Il y a des vidéos où juste on partage ce qu'on fait, très, très similaire aux vidéos de skate, où on montre des figures. On montre aussi un espèce de lifestyle. Et c'est pas pour promouvoir quoi que ce soit, c'est juste pour montrer ce qu'on fait et montrer notre personnalité. Après, il y a des vidéos tutoriels ou qui sont vraiment faites pour apprendre. Et ça a explosé ces dernières années. Ça existait avant, mais c'était assez basique. Et maintenant, il y a vraiment un marché pour ça. Et on peut apprendre tout et n'importe quoi avec des vidéos qui sont très, très bien faites. Il y a des vidéos de promotion aussi, donc de personnes qui font des spectacles. Mais c'est pas souvent ça qu'on va se partager entre jongleurs. Ce qu'on va se partager entre jongleurs, c'est des films, c'est souvent des formats, des vidéos entre 3 et en dessous de 10 minutes, quoi, entre 3 et 5 minutes, et qui est sur un thème. Ou alors des vidéos plus longues, où ça, il y en a. Donc, comme je parlais de Bouncing in Paris, où il y a quelques personnes ou groupes comme ça qui ont vraiment été pionniers ou pionnières dans fabriquer des films de jonglage, en fait, ou qui se regardent. Oui, qui se regardent comme un film qui n'a pas forcément de narration, mais où il y a plein de choses qui se passent, des vocabulaires qui évoluent, ouais, plein de choses.
Dans les vidéos que tu nous présentais, tu parlais de ces vidéos de 3 à 5 minutes qui sont... Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et peut-être nous raconter la place que prend l'espace public dans la réalisation de ces vidéos? Est-ce qu'elles sont dans quel type d'environnement elles sont tournées et quel type de rapport à l'environnement et aussi au mouvement elles explorent?
Ouais, donc j'ai l'impression que souvent filmer dans l'espace public c'est le seul moyen qu'on a premièrement. On n'a pas, quand on n'a pas accès à un studio, on n'a pas accès à. Donc on prend ce qu'on a autour de nous. Ce qui vient en compte aussi beaucoup, c'est comment montrer le jonglage. Donc, par exemple, si je filme avec des objets blancs devant un ciel nuageux, on va perdre les objets dans le ciel, en fait. Donc, j'ai l'impression que souvent, ce qui entre en compte, c'est typiquement trouver un grand mur coloré. Ça, c'est super. il nous faut pour filmer du jonglage, il faut de la hauteur, il faut de l'espace. Et du coup, je pense que... Je parle d'expérience pour moi, les vidéos que j'ai faites, mais je pense que je peux le voir à travers toutes les vidéos des personnes partout dans le monde que j'ai vues, où il y a toujours une grosse part de où on va chercher un lieu, quoi. On va chercher un lieu qui est beau, qui est calme, où on va pas se faire jarter au bout de 5 minutes par un garde ou par trop de gens qui passent et qui vont nous poser des questions et qui vont vouloir prendre les objets et essayer. Donc il y a trouver un endroit calme où on va pouvoir rester pendant des heures, parce que souvent quand on filme, on veut montrer des techniques qui sont un peu à la pointe de ce qu'on fait pour montrer quelque chose de nouveau. Donc c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire du premier coup, donc on va mettre la caméra et on va tourner pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on trouve exactement la bonne prise. Donc voilà, il y a plein de choses qui entrent en compte et c'est super. C'est quelque chose quand les jongleurs et jongleuses qui voyagent beaucoup, c'est souvent quelque chose qu'on aime bien faire de montrer les différents endroits où on a été. Je pense à il y a quelqu'un en ce moment qui poste des vidéos à thème. Jongler devant des cascades, et il a voyagé dans le monde entier et il montre des vidéos de lui qui jongle devant plein de cascades, il a fait des sculptures, il a fait des ponts, Et je trouve que souvent aussi, il y a un moyen d'utiliser le jonglage pour révéler l'espace dans lequel on est, en fait, pour le faire exister. On manipule les objets autour de, ben, du mobilier urbain ou de... ou la nature qui est autour, et du coup on leur donne vie, en fait.
Et ces vidéos, elles se réalisent seules ou avec, enfin, qui est-ce qui tient la caméra?
Ouais, ça c'est assez personnel. C'est pas toujours facile quand on est, si on est dans l'espace public, si on est dans un endroit avec du public, c'est bien de pas être seul. Parce que pour une question de confiance en soi, en fait, parce que faire un truc avec tout le monde qui nous regarde, c'est pas toujours facile. Et puis ensuite, pour des raisons pratiques, parce qu'on va toujours avoir notre sac, la caméra, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un. Maintenant, comme je disais, quand ça prend des heures, souvent il y a des personnes qui préfèrent vraiment faire ça seule. Pour pas, parce que sinon on se sent toujours un peu coupable aussi de attends, je vais recommencer, mais je te promets, ça va, je vais y arriver. Et du coup, ça met plus de pression, ça devient plus difficile. Et donc, souvent, c'est pour les nerfs et pour être détendu, c'est plus pratique d'être seul. Et après, il y a aussi des personnes qui collaborent, donc avec qui travaillent avec des vidéastes. Mais j'ai l'impression que la plus grande majorité, c'est avec mon téléphone quelque part ou avec éventuellement ma caméra. Et je trouve un coin que j'aime bien. Et
est-ce que ces séances de tournage, elles attirent aussi un public qui vient regarder au moins un temps du tournage ou pas?
Oui, bah, s'il y a du public autour, ça attire toujours l'attention. Ça, c'est... Et du coup, en tout cas, moi, personnellement, c'est souvent quelque chose que j'essaye de fuir parce que du coup, j'arrive pas à... Parce que ça me déconcentre, parce que aussi, ben, s'il y a des personnes qui ont envie de me poser des questions, je vais avoir envie de répondre, etc. Et donc, ça va me prendre beaucoup de temps, en fait. Donc, mais c'est clair que ça attire toujours l'œil. C'est très atypique, en fait, le jonglage. Et du coup, même juste les objets, même si on n'est pas en train de jongler, mais qu'on a des objets autour de nous, les personnes qui passent vont nous donner leur avis sur s'ils savent le faire ou pas, si leur père sait faire avec plus d'objets que nous. C'est des choses qu'on entend tout le temps et j'ai l'impression que tout le monde a une opinion un peu sur le jonglage.
Et en termes de post-production, comment on choisit le son, la musique? Est-ce que c'est des prises de son directes? Comment toi, tu travailles, par exemple, la post-production de tes vidéos?
Oui, ça aussi, c'est très personnel. Il y a vraiment de tout. Moi, personnellement, j'aime bien garder le son des objets. C'est aussi une autre raison pour laquelle j'aime bien d'être dans un endroit où il n'y aura pas trop de passages, parce que du coup, il n'y aura pas trop de bruit autour. Donc, je peux entendre le son des objets ben, quand je les frappe ou quand je les touche ou quand ils tombent par terre ou si je les roule ou quoi, ou s'ils rebondissent. Mais ensuite, je travaille avec de la musique et du coup, j'aime bien superposer les deux, éventuellement avoir une nappe de musique et une nappe de bruit ambiant qui donne un peu plus de... En fait, quand il y a juste de la musique, ça peut être un peu plat. Et si on rajoute le bruit des objets, du coup, ça donne un moyen de comprendre le jonglage un peu mieux aussi, en fait.
Et les réseaux sociaux, ces vidéos, elles sont partagées sur les réseaux sociaux. ils prennent quelle place dans la communauté, les réseaux sociaux ?
Alors, depuis, je dirais depuis 5-6 ans, il y a eu d'abord une explosion avec Instagram. Maintenant, il y a sûrement TikTok. J'y passe pas énormément de temps, donc je suis pas sûre de ce qui se passe en jonglage là-bas, mais je peux imaginer que ça, qu'il va s'y passer beaucoup de choses. Et en fait, Instagram, ça a vraiment été une révolution pour partager des vidéos courtes et partager des vidéos. Du coup, c'est plus tant, on nous emmène quelque part avec une ambiance, avec éventuellement une histoire ou une sorte de narration plus ou moins abstraite et voilà, dans laquelle on va être pendant plusieurs minutes. C'est plus, on montre des figures. Des fois, ça peut vraiment être des clips de 10 secondes juste pour montrer une figure. Et ça, ça a permis... Et aussi sur Instagram, comme la langue importe peu, il y a, par exemple sur Facebook, souvent c'est pas facile de communiquer entre communautés qui n'utilisent pas les mêmes langues. Il y a souvent des barrières, alors que sur Instagram, ça s'est beaucoup effacé parce qu'il y a moins de texte et donc c'est juste les vidéos. Et là, du coup, on a vraiment pu découvrir des jongleurs et des jongleuses de partout dans le monde qui montrent... Donc, il y a des personnes qui montrent leur progression et qui donc filment des figures qui sont pas forcément novatrices, mais c'est plutôt pour se donner un challenge à eux-mêmes de... Je vais apprendre ça, je vais jongler tous les jours pendant 100 jours ou des challenges comme ça qui ont apparu. Et ça joue un grand rôle pour se motiver les uns les autres. Ça remplace un peu cette motivation, cette émulation qu'on pouvait avoir dans les clubs ou dans les halls, etc. Où maintenant, moi par exemple, en jonglant avec des cerceaux, j'ai jamais été dans un club où il y avait quelqu'un d'autre qui jonglait avec des cerceaux. C'est un objet assez atypique. Et là, sur Internet, je peux m'entraîner avec des personnes qui jonglent les mêmes objets de la même manière. Et donc, ça a vraiment réduit les distances. Et ça a permis de découvrir que d'autres personnes qui faisaient des recherches similaires. Donc, c'est ça. Et après, il y a aussi des personnes qui postent dans l'optique de poster des choses nouvelles, donc de faire avancer la pratique, de créer.
Et les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où il y a des prises de position sociales et politiques. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de discuter ensemble. J'ai l'impression que... Souvent, on parle de la communauté du jonglage et quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que c'est un leurre, en fait. Il n'y a pas une communauté. Il y a des tonnes de communautés. Et c'est vrai que on a plein de sous-communautés parce que le jonglage, c'est très, très divers, c'est très complexe. Il y a des sous-branches. Tout comme le jonglage, c'était un peu une sous-branche. Enfin, c'était lié à la magie avant, maintenant de moins en moins. Mais il y a beaucoup de choses qui sont questionnées, comme est-ce que le diabolo, ça fait partie du jonglage ou est-ce que c'est sa communauté à soi. Enfin, voilà. Et du coup, mine de rien, le jonglage, c'est une pratique qui est très ancienne, mais qui a explosé très récemment. Et donc, c'est une pratique jeune et qui est vraiment en ébullition. Et donc, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui devient, à quel moment quelque chose devient du jonglage ou pas, et qui sont les jongleurs et les jongleuses, à quel moment on devient jongleur et jongleuse. Donc ça, c'est des discussions qui ont toujours animé, j'ai l'impression, la communauté depuis toujours, mais qui ont pris place de plus en plus dans les réseaux sociaux et qui ont permis un peu d'avoir une discussion avec des personnes plus loin que les personnes qu'on approche de nous et d'avoir des avis plus divers. Moi, personnellement, ça m'a permis du coup de connecter, donc comme je disais, avec des personnes qui pratiquent avec les mêmes objets, mais ça m'a aussi permis de connecter avec des personnes avec qui je m'identifie, par exemple, à travers le spectre du genre. La communauté de jungle est très dominée par des hommes blancs, cis, hétéros, et c'est vraiment il y a une sorte de normativité, enfin de normes qui est très comme ça. Quand on si on demande à quelqu'un de dessiner un jongleur, il ressemblera sûrement à ça. Et du coup, j'ai l'impression que pour moi, ça a été souvent difficile de trouver ma place. J'ai souvent eu l'impression de devoir me justifier ma présence, que ce soit dans les clubs d'entraînement, donc dans la partie sport ou dans la partie art, sur scène, etc. J'ai très souvent été la seule femme sur scène dans des galas de jonglage. Et du coup, grâce aux réseaux sociaux, on a pu un peu se retrouver des personnes qui nous ressemblent et ensuite avoir des discussions sur comment trouver notre place, comment aussi en fait c'est En fait, c'est facile d'avoir l'impression qu'on n'existe pas. Si on regarde des clubs... donc là, je parle en tant que femme et ça résonne avec des choses que des amis qui sont des personnes noires m'ont dit aussi. Que quand on ouvre un livre sur le jonglage, ben, on ne se retrouve pas. Et quand on va dans une convention... on ne se retrouve pas forcément non plus. Et du coup, dans les réseaux sociaux, on a trouvé ce moyen de trouver des personnes qui nous ressemblent et de faire entendre nos voix de plus en plus. Ouais.
Et c'est passé par des actions concrètes. Il y a eu notamment une liste de jongleuses qui est sortie. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé autour de cette liste ?
Voilà, donc il y a quelque chose qu'on entend tout le temps, c'est où sont les femmes jongleuses, il n'y a pas de femmes jongleuses. Donc au fil des années, on a entendu toutes les théories que les femmes ne sont pas intéressées par le jonglage, que physiquement, il doit y avoir quelque chose qui ne nous avantage pas, enfin, tout plein d'inepties. Et donc, cette liste-là, elle a été lancée à l'initiative de Ariane Ochsner, donc qui est une jongleuse autrichienne qui en avait marre d'entendre ça, qui en avait marre d'entendre des programmateurs dire « Bah non, mais on n'avait aucune jongleuse dans le gala parce qu'on n'en a trouvé aucune, il n'y en a aucune qui soit au niveau, etc. » Et elle a dit « Bah écoutez, moi, je vais vous faire une liste de toutes les jongleuses. » Et on a donc ça a été alimenté par tout le monde. Tout le monde pouvait rajouter des noms. Je ne sais pas combien il y en a maintenant, mais je pense qu'on doit être autour de 500 noms de femmes qui jonglent. Et c'était un exercice de style plus qu'autre chose. Au final, c'est des fois quand quelqu'un dit. Il n'y a pas de jongleuse, on a tendance à ressortir la liste, mais c'est vrai que c'est... elle n'a pas d'utilité concrète parce qu'il y a trop de monde, il y a trop... Et puis, c'est difficile de lister les personnes comme ça, mais c'était... En tout cas, ça a rendu vraiment ça très clair, quoi. Et puis, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé récemment, donc On a un concours de popularité dans la communauté. Donc, c'est très intra-jongleurs et jongleuses où on vote les uns les autres. On vote à un moment dans l'année pour nos jongleurs et jongleuses préférés. Et c'est une période d'une semaine pendant laquelle on peut voter. Et ensuite, les 40 personnes qui ont récolté les plus de votes sont regroupées dans une vidéo où on voit donc quelques secondes de leur jonglage et on a donc le top 40 des jongleurs et jongleuses de l'année. Et bon, ce top, depuis des années, les femmes sont vraiment très très minoritaires dans le top. Et du coup, cette année, Ariane, la même femme qui avait lancé l'idée de la liste, a lancé un gros pavé dans la mare en proposant qu'on instaure un quota sur cette liste. Et donc, suite à ça, il y a eu des débats très houleux, très violents même. Ça a été une période vraiment très difficile, je pense, pour toutes les personnes, pour toutes les femmes et minorités de genre qui lisaient les commentaires. Ça a été très, très violent. Suite à quoi, donc, l'organisateur de la compétition a fini par installer un système de vote où on pouvait voter pour 5 hommes, 5 femmes ou autant de personnes non binaires qu'on voulait dans une limite de 10 personnes. Et donc, maximum 5 hommes et maximum 5 femmes, ce qui a donné accès en fait à cette liste qui, mine de rien, ça a pas d'impact très clair. C'est quelque chose, c'est un hobby, c'est une liste de popularité, mais en fait c'est hyper important parce que, mine de rien, se retrouver dans cette liste pour l'ego, c'est chouette. Quand on est jeune jongleur, on regarde cette liste, on découvre des personnes qui nous inspirent et donc c'est super chouette de se voir soit soi-même, soit quelqu'un qui nous ressemble, de les voir à cette place-là et de dire ben oui, cette personne-là, elle apporte beaucoup au jonglage et c'est peut-être pas sous le prisme de ce qui est considéré bien par les hommes cis, de la haute technique, de la vitesse, de ce qui a été considéré bon pendant des années par la majorité, mais aussi par qu'est-ce qu'on fait pour la communauté. Il y a des personnes du coup qui sont énormément, qui ont une très grosse influence, qui ouvrent le jonglage à des non-jongleurs, qui démocratisent la pratique vachement. Il y a des personnes qui ont organisé des événements depuis des années. Il y a des personnes, donc vraiment d'avoir un peu plus un spectre un peu plus large de qui est la communauté. Et un peu plus divers et donc voilà, ça c'était vraiment très très chouette et ça n'a pu exister que grâce aux réseaux sociaux.
Et est-ce que tu peux nous parler d'Yana?
Alors, donc Yana, c'est un magazine que j'ai créé l'année dernière. On a sorti le premier numéro en octobre 2020. Et ça va être un magazine annuel, donc qui est imprimé. Il est assez gros, c'est un format un petit peu plus grand que A4 et qui fait 160 pages. Donc il est assez lourd, voilà. Et justement, moi, je l'ai créé un peu suite à cette réalisation que j'existais dans aucun livre, en fait. Dans tous les livres dédiés au jonglage, les femmes sont un chapitre. Et puis, dans tout le livre, il n'y a que des personnes qui font de la scène, qui performent. Moi, la scène, ça a été un moment de ma vie. En ce moment, je ne performe pas. Je suis jongleuse toujours, pourtant. Il y a énormément de mes jongleurs et jongleuses préférées qui révolutionnent ce qu'est la pratique et qui mettront jamais un pied sur scène. Et donc pour moi, c'est vraiment important de j'avais cette envie de retrouver ce que j'aime dans le jonglage et qui je suis aussi dans un endroit papier en fait. Donc c'est un magazine d'art qui est fabriqué par des jongleurs en fait et des jongleuses. Donc tout le contenu sort d'un cerveau qui a été modelé par la pratique du jonglage d'une manière ou d'une autre. Après le contenu en lui-même parfois décrit ou parle ou est une image de jonglage et parfois pas du tout. On a des séries de collages, on a des séries qui sont vraiment détachées du jonglage, mais parce que ça a été fait par quelqu'un qui pratique, par quelqu'un qui a donc sa vision du monde formée par cette pratique-là, moi ça me suffit. Donc voilà.
Un magazine sur le jonglage comme une culture, sur le jonglage comme une façon de voir les choses. Et est-ce que tu pourrais, pour finir, nous lire un petit morceau de ton édito ? Tu peux lire en anglais, lire une phrase en anglais, nous le traduire en français derrière.
Je vais le traduire en direct. Je vais faire de mon mieux pour le traduire en direct. Et puis, si vous voulez la version originale... Vous pouvez commander le magazine. Alors, premièrement, je pense que c'est important que je vous explique pourquoi j'aime le jonglage. À la croisée du mouvement, du rythme, de la composition, des mathématiques, du sport, de l'architecture, du design et d'un hobby, le jonglage est une forme d'art complexe et diverse qui résonne avec plein d'autres. C'est non seulement une organisation d'objets en mouvement dans l'espace, mais c'est aussi quelque chose qui forme la personne qui met ces objets en mouvement. Cela crée des connexions et une cartographie dans notre cerveau d'une manière qui impacte tout ce que nous faisons dans la vie. Notre corps, notre manière de penser, notre relation aux objets de la vie courante et aux autres corps autour de nous, la façon dont nous comprenons les patterns dans la nature, dans le temps et dans l'espace.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir Florence.
Au revoir.